Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2, épisode 24. Salut Thibaut.
Salut Guillaume. Alors, déjà l'épisode 24.
Déjà.
Ça file.
On va, pas dire ça à chaque épisode, mais non, Jack, la fois passée, on a fait un petit débrief. On en est où?
J'oublie.
T'oublies.
Mémoire de poisson rouge.
Ouais, ça doit être ça. Aujourd'hui, un programme qui va beaucoup vous intéresser, je pense, j'en suis même sûr, puisqu'on a 4 films attendus de la part du public. À des degrés différents, hein. Je pense qu'il y a clairement un gagnant parmi ces films-là en termes d'attente. Il s'agit de Captain Marvel. Autre film, c'est Une femme d'exception, suivi du mystère Henri Pic avec Fabrice Luchini et Les Éternels. Donc 4 films très différents les uns des autres et on va en discuter dans cet épisode, bien sûr. Commençons tout de suite peut-être par le box-office.
Peut-être,
on commence par ça,
hein.
Certainement. Par les prévisions du box-office, puisque nous enregistrons cet épisode un petit peu en avance par rapport à nos habitudes, ce qui fait que ce ne sont pas les chiffres définitifs. Inutile donc de nous corriger jeudi prochain en allant vérifier les bons chiffres. Voilà, c'est ce qu'on a pour l'instant et on va travailler avec ça. Mais à mon avis, ils vont être très proches de la réalité. Le premier film en France, c'est Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui est toujours là, avec 455 000 entrées, donc un demi-million. Qui va bientôt du coup atteindre les 6 millions d'entrées en France. On avait déjà fait la blague la fois passée, mais je pense qu'on va le refaire. Ça risque fort d'être le César du public 2019.
Je ne dirai plus un mot sur ce film.
Je peux comprendre. Deuxième film, c'est Dragon 3, Le Monde Caché. Dragon 3 qui n'arrête pas de faire des bonnes performances. Hein, ça fait plusieurs semaines qu'il est là. 430 000 entrées, et vu que c'est provisoire, peut-être qu'il va même dépasser. Qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu? Il faut savoir que c'était les vacances de... Les vacances, je pense, en France.
Je sais pas.
Ils ont des semaines.
Oui, mais ils sont tous décalés.
C'est décalé. Donc, c'est possible, hein, puisque les deux. Enfin, dans le top 3, il y a deux films qui sont des dessins animés, en tout cas des films animés, puisqu'il y a aussi Ralph 2.0 dans le top 3. Donc, à mon avis, c'est possible qu'en France, ce soit déjà les vacances. 325 000 entrées pour Ralph 2.0. Ça fait quoi au total? Ça fait 1,7 million d'entrées pour Ralph et bientôt 3 millions d'entrées pour Dragon 3. Donc, il y en a clairement un des deux qui est deux fois au-dessus. Reste à savoir pourquoi est-ce que Ralph 2.0 ne marche pas aussi bien que Dragon 3, alors que pourtant la qualité des films est tous les deux, enfin, même si toi tu as une petite préférence pour Dragon 3 parce que t'as adoré cette trilogie.
Plus qu'une petite.
Quatrième film, c'est un film qui a besoin de succès, c'est Alita Battle Angel. 315 000 entrées en France la semaine dernière, cette semaine-ci. Ça fait 1,6 million d'entrées au total. On l'avait dit, ce film-là a besoin d'un gros succès à l'international, notamment en Chine. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est un petit désastre. Donc espérons que ça se récupère. Et dernier film du top 5, c'est dommage de le voir si loin dans le classement. C'est Le Chant du Loup, on en parlait la semaine dernière, puisque tu avais été le rattraper. On vous invite d'ailleurs à écouter la critique du Chant du Loup, puisque c'est un film français ambitieux, qui osait miser sur une esthétique, sur une approche, sur un monde qu'on ne connaît pas très bien. C'est un monde du sous-marin. Et là, 290 000 entrées pour ce film-là, moins du coup de 800 000 entrées. Pourtant, il y avait un gros casting, Mathieu Kassovitz, gros budget. C'est dommage de voir un film qui prend peut-être plus de risques qu'une grosse comédie qui tâche, on va dire, et qui ne parvient pas à trouver son public.
Il est quand même pas loin du million, et je pense qu'il arrivera un peu au-dessus du million en fin de carrière, donc c'est quand même bien, mais effectivement, ce serait bien que plus de gens aillent le voir.
Je pense certainement qu'il espérait plus. Passons au premier film de la semaine, qui, à mon avis, lui, n'aura pas besoin de marketing supplémentaire. Je veux dire, il y a de fortes chances qu'il soit le premier du box-office dans les prochaines semaines, sans trop de soucis. C'est un film qu'on a découvert très récemment, Captain Marvel. L'amuse-bouche avant la suite de Avengers, donc on avait Infinity War, on aura Endgame dans 2 mois, je pense, même pas.
Ouais.
Et là, on a eu entre-temps Captain Marvel, l'introduction du premier film de super-héros féminin de l'univers Marvel. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça se passe dans les années 90, en grande partie, hein, 80-90, fin 80, avec Brie Larson dans le rôle principal, et en grande partie, il y a aussi Samuel L. Jackson qui occupe une grande partie de ce film, plus que les apparitions qu'il peut avoir dans les différents Avengers ou les différents films Marvel. Là, il est vraiment une co-star, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte Captain Marvel, Thibaut?
C'est une bonne question.
C'est vrai que c'est une bonne question.
Il y a des gens qui se battent. Alors, ça, Captain Marvel, ça raconte l'histoire d'une Kree. Enfin, c'est ce que. Enfin, ça raconte l'histoire.
Ce qu'on nous fait
Kree.
Croire, oui, c'est ça.
Ça raconte l'histoire d'une Kree qui est envoyée sur Terre suite à une mission qui va un peu dégénérer et qui va essayer de découvrir. Enfin, qui va devoir essayer d'arrêter un méchant. Ouh. Qui essaye de s'emparer d'une technologie humaine assez, assez sensationnelle. Voilà. Qui pourrait être très utile pour lui, utile. Pour sauver son peuple.
Enfin, qui peut être représenté par un rond, par une boule, par un rectangle, par un cube, par plein de choses.
Un cube.
Ça comme ça.
Mmh. Voilà. Un cube. Mais
oui, oui, voilà, c'est pas un gros spoiler.
Non. Mais en fait, j'ai fait exprès de pas lire le synopsis qui est devant nous parce que je trouve que ouais, il spoil un peu
la fin. Hein.
Enfin, ça dit ceux qui connaissent déjà le personnage de Captain Marvel connaissent l'identité de Carol Danvers, mais voilà, on va dire que cette identité est complexe.
Tout à fait. Et d'ailleurs, dans le film, elle recherche son identité, elle se bat avec oui, cette question-là. Ça c'est sûr.
Oui, parce qu'elle a des souvenirs qui lui apparaissent, mais qui ne lui rappelle rien, en fait. Donc, ce sont des souvenirs sans être des souvenirs.
C'est un peu la mémoire dans la peau, quoi. Il s'est passé quelque chose.
Peut-être.
On ne sait pas très bien. Elle a des flashs. Tout à fait. Et donc, en effet, elle va devoir lutter contre une race. Je ne sais plus du tout comment s'appelle cette race extraterrestre qui est à la recherche de cette énergie. Et donc, on a un peu qui sont les méchants, qui sont les gentils. C'est un peu ce débat-là pendant le film, avec forcément, bah, comme dans souvent les films Marvel, quelques petits retournements de situation, quelques séquences d'action, bien entendu. Mais, de manière générale, c'est plus un film d'aventure et de quête d'identité, je trouve, avec le duo Samuel Jackson-Brie Larson, qui fonctionne plutôt pas mal, d'ailleurs.
Oui, parce que la plupart du film se déroule sur Terre, et le personnage de Carol Danvers qui ne s'appelle pas, j'ai oublié comment elle s'appelle
Verse en anglais, oui, c'est ça.
Ouais. Elle va rencontrer le personnage de Samuel Jackson, Nick Fury,
tout à fait.
Qui n'est pas encore l'homme qu'on connaît dans les
avec son patch
dans
sur
tous
les yeux,
autres
etc.
dans oui, tous les autres films Marvel, mais en fait oui, lors de ce film on va découvrir le Shield existe, mais pas exactement comme on le connaît en tant que spectateur du Marvel Cinematic Universe.
Bah, en fait, disons que nous, on est en avance par rapport aux personnages dans le film. On sait déjà ce qui va se passer avec les Avengers,
oui,
etc.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est une espèce de prequel, voilà. D'une certaine façon, du Shield, vu qu'on découvre un peu vraiment ses débuts, avec les débuts de Nick Fury, qui a encore deux yeux, et on va découvrir comment il a perdu son œil.
Tout à fait. Cocasse.
Les débuts de l'agent Coulson aussi, donc oui. Voilà, ça c'est la partie assez sympathique du film, je trouve.
Il y a ce côté un peu un tout petit peu Benjamin Gates comme ça, tu vois ce que je veux dire, un peu on est deux trois personnes dans une bagnole et on va devoir aller quelque part et on ouais. y va et puis il y a des méchants et puis tu vois un peu le délire quoi,
c'est un film d'aventure.
Un peu ce film d'aventure, tu pourras avoir un truc de Jerry Bruckheimer derrière parce que parfois il y a des scènes dans des bases d'avion. Ça fait un peu penser parfois à Transformers mais de loin. Heureusement. Mais voilà, je veux dire, pour moi, c'est un film qui rentre tout à fait dans l'univers Marvel, qui rentre très bien dedans, qui nous fait patienter pour le prochain Avengers, qui introduit du coup un nouveau personnage. On va en parler parce que c'est quand même l'élément principal du film, c'est Brie Larson, c'est le personnage de Captain Marvel.
Oui.
Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que c'est aussi le porte-étendard des femmes? Parce que c'était le but de Marvel de dire, voilà, on va faire un film presque féministe, on va le dire. En tout cas, c'est ce qu'ils vendent. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du personnage de Captain Marvel, enfin interprété par Brie Larson?
Alors, le personnage en lui-même est intéressant et inintéressant au possible.
C'est vrai.
C'est vraiment un mix des deux. Dans le sens où toutes les origines du personnage de Captain Marvel, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que Carol va devenir Captain Marvel, etc. Tout ça, c'est assez intéressant. Après, je trouve que le personnage de Captain Marvel en lui-même, c'est la pire des choses possibles. Parce que... pour faire simple, c'est un super-héros qui... Enfin, une super-héros...
Bah, c'est un peu un
qui
Superman...
n'a pas de défaut.
C'est un Superman 2, quoi.
C'est exactement l'équivalent de Superman dans chez Marvel.
Tout à fait.
Et donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un super-héros qui a quasiment aucun défaut.
Ah là, il l'assume. Enfin, c'est pas qu'elle a aucun défaut, parce que d'office, ils vont trouver des défauts peut-être plus psychologiques par la suite. Hein, c'est souvent comme ça qu'ils font. Hein,
oui, oui, alors... Je vais pas faire l'expert en comics, mais je sais qu'elle a un gros défaut qui apparaît à un moment dans sa vie. Mais on en est encore loin, donc forcément, ça n'a pas d'intérêt d'en parler maintenant. Mais à part ça, elle en a pas vraiment. Donc évidemment, tu sais que depuis le dernier Avengers, que c'est le personnage qu'on va attendre et c'est le personnage qui va permettre de battre Thanos, parce que Captain Marvel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la leader des Avengers en vrai, hein. C'est pas Captain America. Enfin,
c'est pas la bande de clampins qu'on
a
vu.
Un peu Captain, mais c'est pas vraiment Iron Man le leader.
Non.
En fait, vraiment la leader, c'est Captain Marvel. Donc, on sait qu'elle est super forte et on sait qu'elle va kicker le cul de Thanos, mais et c'est cool parce que c'est quelque chose qu'on attend quand même.
Mm-hmm.
Mais voilà, moi j'ai vraiment du mal avec ces super héros qui sont presque intouchables. C'est quelque chose de pas hyper
intéressant.
Intéressant, ils ont pas vraiment d'aspérité, donc voilà, c'est un peu dommage. Après, je trouve que dans l'ensemble, le film a un très bon origin story.
Mm-hmm.
Le personnage est très intéressant parce que elle traverse beaucoup de choses différentes.
Bien sûr.
Elle se questionne, elle se pose. Enfin voilà, elle veut savoir qui elle est, d'où elle vient, etc., etc. Parce qu'il y a des choses en elle qui, enfin, elle sent qu'il y a des choses en elle qui sont pas. Enfin, qui sont des gros points d'interrogation, en fait, qui sont pas clairs. Donc, je trouve qu'il y a plein de choses à ce niveau-là qui sont intéressantes. Donc, dans l'ensemble, j'ai un avis un peu mitigé, tu vois. C'est sympa, c'est un bon divertissement.
Ouais.
Il y a des personnages qui sont vraiment très, très cool, et ça fait plaisir d'en revoir certains, dont, évidemment, Nick Fury et Coulson. Mais voilà, moi, j'ai du mal avec ces super-héros intouchables.
Intouchable, tout à fait, c'est le cas de le dire. C'est aussi mon problème avec ce film, c'est qu'en effet, le personnage est beaucoup trop puissant et on perd un peu d'intérêt quand elle se bat, surtout vers la fin du film, parce qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, elle a qu'à faire un truc et puis.
Le combat de fin, c'est.
On s'en fout, quoi, parce qu'elle peut vraiment tout faire, quoi. Et c'est vrai que c'est la rapidité avec laquelle elle. Parce qu'elle a des pouvoirs pendant tout le film, mais elle doit vraiment apprendre à les utiliser.
Ouais.
Hein, et se libérer de. Voilà. Mais très concrètement, une fois qu'elle s'est libérée, en 3 secondes, elle sait faire tout ce qu'elle veut avec ses pouvoirs. Enfin, mais tout ce qu'elle veut, quand je vous dis tout ce qu'elle veut, c'est
presque tout ce qu'elle
voilà.
veut.
c'est vraiment aberrant. Et donc c'est vrai que ce côté-là est un peu surpuissant. On se dit, bon, ok, super. Alors je suis très content qu'on s'attarde enfin à une femme, je veux dire, dans le rôle principal pour Marvel, alors qu'ils auraient pu le faire avant, quand même, avec Scarlett Johansson, etc. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont attendu 20 films pour le faire, donc c'est pas grave, tant mieux, c'est bien. Et il y a quand même ces messages positifs, hein, pour la gente féminine, il faut le dire dans le film. Plusieurs fois, on rigole un peu du statut de l'homme qui essaye de faire sous-entendre qu'il est meilleur que la femme. Et que la femme qui, elle, se parvient toujours du coup à se relever. Qui est...
Oui, il y a quelques petites répliques assez sympathiques et bien, bien placées.
Tout à fait. Et donc, du coup, il y a ce côté un peu message et Brie Larson qui, parfois, on dirait qu'elle est consciente qu'elle est dans un film Marvel. Tu vois ce que je veux dire dans sa démarche, dans son regard.
Ah bah...
Alors forcément, quand tu es le personnage de Captain Marvel, alors oui, tu peux te permettre un peu de marcher au ralenti. Mais même avant, tu vois ce que je veux dire, elle est là en train de marcher dans les couloirs, tu te dis, mais wow, fille, t'es où ?
Mais même sur Cree, elle a un caractère un peu spécial.
Oui, c'est
donc...
ça, elle a déjà un caractère
ouais,
un peu...
Ouais, mais ça me gêne pas du tout, parce que tu comprends qu'elle est... Même par rapport aux autres, elle est spéciale. Et effectivement, elle est spéciale par rapport aux autres.
Bien sûr.
Donc non, ça me gêne pas vraiment. Mais je comprends ce que tu veux dire.
Tu vois ce que je... Et l'humour un petit peu... qui parfois marchait pas beaucoup, je trouvais. C'était un peu parfois...
Jude Law.
Oui, oui.
Ouais.
Voilà, oui. Oui, 2-3 trucs qui fonctionnaient pas très bien, honnêtement. Quelques blagues aussi, tu dis, ouais, c'est un peu trop... C'est un peu cheesy quand même, un peu beaucoup.
Mais il y a quelques très bonnes blagues.
Il y en a quelques très bonnes.
Parce qu'il y a ce côté années 90, enfin 90,
ah oui, ça j'adore.
Qu'on retrouve et qui est génial.
Ah oui, ça j'adore.
Le truc, à un moment, il utilise un ordi et...
Le temps de chargement.
Bah ouais, le temps de chargement qui est super lent, c'est super drôle.
Oui, oui, voilà. C'est,
enfin,
c'est
pour ceux qui ont connu ces années-là. Parce que sinon,
plein de clins d'œil, tout à fait, à ces années-là. Et puis c'est vrai que c'est sympa de voir Samuel Jackson dans... Ils l'ont rajeuni par ordinateur, je pense, un truc comme ça. Parce
ils
l'ont
bien rajeuni, d'ailleurs.
Oui, ils l'ont rajeuni.
C'est pas choquant, je trouve.
Non, c'est pas choquant du tout.
C'est bien fait.
Donc, c'est sympa. Il y a le côté feel-good, le côté un peu, comme j'avais dit, aventure familiale, qui fait en sorte qu'on passe un bon moment devant Captain Marvel. Personnellement, j'ai pas... Oui, ok, vers l'heure 45, on commence à se dire que faudrait tout doucement conclure. Mais ils le font assez vite. Donc voilà. C'était un peu. J'ai l'impression d'avoir pris l'apéritif. Maintenant, j'ai envie de passer au plat, quoi, tu vois. C'est un peu ça.
Oui, c'est exactement ça. T'as ce petit côté amuse-bouche voilà. Sympa.
Sympa. J'ai bu ma petite bière, j'ai pris mes chips, mais maintenant, il faut qu'on attaque le gigot, tu vois.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est un peu ça.
Ouais. Parce que la scène post-générique, elle est hyper kiffante. La première, enfin la deuxième est drôle aussi. Ouais,
la deuxième est très anecdotique, mais la première, mais
comme toujours,
Ça donne envie.
Chez Marvel, t'as la première scène qui est sérieuse, et puis l'autre, c'est le petit côté humoristique.
Allez, on a fait une petite blague et on se casse. Mais oui, la première, tu dis, bon, allez, faut que j'aille voir ça.
Allez, maintenant, les choses sérieuses vont commencer.
C'est clair. Mais c'était bien amené, honnêtement. Voilà. Maintenant, je pense que Marvel aura toujours ce problème de dire, on passe d'un film, tu vois, genre Avengers Infinity Wars, et puis là, on va passer, imagine, à Ant-Man 3. Tu vois, tu descends d'un niveau quand même. Et puis hop, tu repasses à Avengers. Je pense que quand t'as goûté à Avengers, tu vois, le solide casting, le truc qui tâche, parfois c'est difficile de revenir à un truc plus intime.
Non, je suis pas d'accord.
Pour moi en tout cas, qui suis pas un aficionados. Enfin, tu vois, je suis pas un aficionados.
Oui, aficionados. Mais non, voilà. Je suis pas d'accord parce que par exemple, Avengers 2, c'était épouvantable.
Oui, mais là c'est différent. Tu sens qu'avec Infinity War, ils ont un peu plus bossé le bazar quand même.
Ouais, parce qu'ils ont essayé de donner un peu de temps de présence à tout le monde, ils essayaient de faire un truc cohérent, qu'il y ait de la gueule, etc.
Ouais.
Et c'était bien fait. Mais le 2, non, tu vois. Et Civil War, pareil, c'était non.
Et de nouveau,
parce que tout le monde était là.
Autre point négatif pour Captain Marvel, c'est justement ce côté non équilibré. Parfois, on parlait des blagues qui marchent, des blagues qui marchent pas, etc. Honnêtement, les 20-30 premières minutes du film, je me suis dit, ouh, si ça pendant tout le film, ça va être chiant. Ça commence avec des scènes où Jude Law, tu vois, fait un peu son Jude. Et il est un peu limite.
Il est un peu over the top.
Il est un peu over the top. Alors, il se croit toujours dans Grindelwald ici. Donc du coup, voilà. Et puis après, ils sont dans l'espace, sur des planètes. Et c'est vrai qu'honnêtement, moi dans les films Marvel, ce qui m'intéresse plus, c'est quand même quand on est sur Terre, honnêtement.
Le côté cosmique est un peu moins intéressant.
Et parfois, t'es là, ok, où est-ce qu'on est ? On est sur une planète que je ne connais pas, alors que... Enfin, tu vois. Et puis après, ok, à bout de 30 minutes, dès qu'elle atterrit sur Terre... Et qu'elle rencontre Nick Fury, bon là on est parti quoi.
Mais pour toute la partie cosmique, tu vois qu'ils ont essayé de surfer sur le succès des Gardiens.
Oui.
À raison, parce que d'ailleurs le Ronan, le méchant des Gardiens, est présent dans le film. Il y a même le personnage de Jimon Unsu qui est aussi dans les Gardiens de la Galaxie, qui est également là. Donc et puis bon, voilà, forcément son décrit, donc son tout est lié. Mais effectivement, je trouve que la partie cosmique fonctionne un petit peu moins et c'est parfois. Ça fait un peu. Même si c'est bien foutu, t'as ce petit truc un peu cheap, un peu. Bon, les costumes, etc. Ça a peut-être un petit peu dépassé. Mais ça va encore. J'ai eu des craintes, mais ça passe.
Et puis l'autre truc, bon, ça c'est un peu logique, mais souvent dans les films Marvel, enfin maintenant, il y a toujours cette question de sauver la Terre, sauver l'univers, guerre, intergalactique, tout ce que tu veux. Alors qu'on est en pleine guerre avec Avengers pour l'instant, on a Captain Marvel, pourquoi est-ce qu'on va nous refaire un conflit entre deux planètes limite ? Il y a tellement moyen de faire... En plus, vu qu'il y a quand même beaucoup de questions personnelles, tu peux faire un truc un peu plus intimiste en utilisant les pouvoirs de Captain Marvel à un moment donné, mais t'es pas obligé de faire de nouveau un gros bazar. Même si le film, on n'a pas l'impression que c'est un gros bazar comme dans les autres films, tu vois, on voit pas des... Ça fait pas des caisses non plus, quoi, tu vois.
Non, et ça, c'est bien, c'est ce que j'ai trouvé assez positif, c'est qu'ils essayent pas d'en faire de trop non plus.
Oui.
Même avec cette bataille finale qui est, je trouve, assez risible, mais soit, ils essayent pas d'en faire un truc hyper premier degré, à fond, avec des explosions à foison, etc. Donc, c'est quand même pas trop mal. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, assez mitigé.
C'était satisfaisant, c'était sympa de voir un nouveau personnage, Brie Larson, qui quand même voilà, apporte quelque chose, mais on a un peu peur pour son personnage pour la suite, parce qu'on se dit, elle face aux autres, les autres auront un peu moins d'intérêt, voilà, donc on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu lui donnes du coup à Captain Marvel ?
Bof, ouais.
Bah oui, 2 étoiles, hein.
Ouais.
Je pense que là, faut pas être... trop généreux non plus.
C'est déjà généreux.
C'est déjà généreux 2 étoiles. Bon, on passe un bon moment. Je veux dire, je me suis pas
ennuyé. Oui, on passe un bon moment. Mais bon, il y a un moment, c'est un peu éculé tout ça, tu vois.
Ouais. Ok.
C'est difficile d'amener vraiment de la fraîcheur. Je trouve pas que Captain Marvel apporte de la fraîcheur.
Non.
D'une certaine façon, oui, parce que c'est un nouveau personnage.
Voilà, c'est une femme, etc.
Mais c'est la même soupe.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Oui. Je pense qu'ils ont compris de façon.
Et Brie Larson est très bien. On en a pas beaucoup parlé d'elle, mais elle est très très bien dans son rôle.
Très convaincante.
Oui. un bon Captain Marvel.
C'est vrai qu'au début, j'ai eu très très peur, et c'est possible que vous ayez peur au début, parce que quand vous voyez les scènes avec Brie Larson et Jude Law, il y a un ton un peu over the top, notamment cette scène de combat au début, vous allez voir ce que je veux dire.
Ouais.
C'est vraiment tout, tout, tout. Et tu te dis, mais non, attends, je suis un film de Bruce Lee ou quoi? Et puis ça se calme un peu.
Dernière chose dont on n'a pas parlé.
Oui, quoi? Mais ça, c'est une découverte. Voilà, c'est ce que je disais, over the top, c'est un peu parfois.
Il y a un petit charou mignon quand même.
Un petit charou mignon qui est sur un poster.
Qui s'appelle Goose.
Qui s'appelle Goose.
Ouais. Qui est déjà la star du film.
Goose,
en référence à Top Gun, évidemment.
Bien sûr.
D'ailleurs, les références à Top Gun ne manquent pas dans le film.
Non, c'est sûr. Il manque plus qu'un petit Tom Cruise.
Non, ça y a pas. Mais bon.
Non, t'imagines Tom Cruise qui se balade au ralenti. Non, ça y est pas.
Bref, Captain Marvel, 2 étoiles.
2 étoiles. Passons à autre chose. Hein. C'est pas du tout un film Marvel. Ça pourrait l'être dans un univers parallèle. James Bond. Le nouveau James Bond, ils sont en train de travailler dessus. Ça fait un petit temps que c'est en chantier tout ça. Hein. Ouais, ça avait été reporté, etc.
Est-ce que c'est réellement en chantier?
C'est pas vraiment en chantier, mais bon, il y a eu le côté Danny Boyle, tout ce truc. C'est fini tout ça. On est toujours avec Fukunaga pour le nouveau James Bond. Mais il y a 2-3 questions qui se posent, et notamment, tout frais, sorti des Oscars, Rami Malek, voilà, oscarisé dimanche 24 février, pour son rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, bien sûr, est pressenti pour jouer le méchant. Comme souvent d'ailleurs, on avait eu Javier Bardem qui, suite, il était nommé je crois, ou un truc comme ça, et puis hop, il est devenu méchant. Christoph Waltz, méchant, boum, méchant, ouais. Tu vois. Ils aiment c'est bien vrai. Faire ça, hein, utiliser les gens qui jouent aux Oscars pour prendre le film. Pourquoi pas pour Rami Malek, honnêtement, je pense qu'il pourrait très bien être convaincant en méchant dans un James Bond. Moi, ça me choque pas outre mesure.
Je suis pas convaincu.
T'es pas convaincu?
Non, mais j'ai un peu du mal avec Rami Malek.
Ah ouais, de manière générale?
Ouais.
Pourquoi?
Moi, ouais, je sais pas.
Pourtant, il joue dans...
Je crois que c'est quelque chose qui dégage.
Il joue dans la série de Pacifique, hein, où là où il jouait un type justement qui était un peu psychologiquement atteint de la guerre et tout.
Pas qu'un peu.
Pas qu'un peu, donc pourquoi pas, il peut le faire, ce côté un peu, je vois le mec un peu... J'ai envie de dire contrarié, mais c'est pas le bon mot. Oui. Et donc, forcément, on dit, ok, Rami Malek, Daniel Craig, etc., mais qui va jouer la fameuse James Bond Girl?
Ah, moi, je suis ultra fan de ce choix, si c'est elle, Banco.
C'est-à-dire?
Lupita Nyong'o, peut-être.
Peut-être. Un nom, peut-être.
Bah, en tout cas, c'est le nom qui revient le plus pour le moment.
Oui.
Évidemment, rien de ce qu'on dit n'est officiel, mais là, non. On est vraiment dans les rumeurs plus que persistantes. Hein. Donc, peut-être qu'une annonce devrait arriver incessamment sous peu.
Oui, en tout cas, ils doivent tout doucement se manier le cul, hein, pour tourner tout ça, sachant que le film, donc à la base, était programmé pour 2019, je pense. Maintenant, il est pour le 14 février 2020, donc ce sera un dîner romantique at the movies. Saint-Valentin, devant James Bond. Ça peut être sympa.
Ça peut.
Ah, moi, j'aime beaucoup James Bond. Et... ma moitié également, donc ça sera bien. Ouais. 14 février 2020, c'est bien. Pour James Bond, voilà, je crois pas qu'il y a grand chose d'autre à dire. On avait déjà parlé de Scott Burns, qui est le scénariste, ouais. qui va, après avoir fait la vengeance dans la peau, entre autres, va s'attaquer à ce projet-là. Donc voilà, c'était pour la petite information de James Bond, le point, on viendra vers vous. Dès qu'on a plus d'informations, qui fait la musique, etc. Lady Gaga, Bradley Cooper, on ne sait pas encore. Passons tout de suite au deuxième film de la semaine. Quel changement de style, hein, changement de ton.
Oui.
Une femme d'exception, en anglais.
Ah, mais on est dans une semaine de femmes, hein.
Oui, mais c'est pas grave, c'est tant mieux. Une femme d'exception qui sort avec un film avec Felicity Jones et Armie Hammer. Et bon, aussi Justin Theroux, mais voilà, c'est clairement le duo de tête. Et là, tu vas devoir m'en parler un petit peu, parce qu'à part qu'il y a une jeune avocate, je ne sais pas très bien de quoi parle ce film, donc je suis complètement vierge.
Ah oui, d'accord. Tu n'as jamais entendu parler de Ruth Bader Ginsburg?
Non.
Cette juge américaine... qui est, on en a parlé un petit peu, mais je n'avais pas vu le film à l'époque, donc on n'a pas développé le sujet, mais c'est une juge, je pense, de la Cour suprême, enfin. Et c'est compliqué, le système judiciaire aux États-Unis. Bref,
même chez nous.
C'est une juge qui pèse. Ah, elle qui est pèse dans le game, tu
elle
vois.
Elle est au niveau.
Elle, okay. Elle pèse dans le game.
Plus qu'Anne Gruet ou...
hmm?
Plus qu'Anne Gruet.
C'est la Anne Gruet des États-Unis.
D'accord. Ok.
De ni juge ni soumise, hein, pour si jamais vous n'aviez pas la référence. César du meilleur documentaire, Belgium One Point. Et donc, il y a eu un documentaire sur Ruth Bader Ginsburg qui s'appelait RBG.
C'est bien choisi.
Qui sont ses initiales, tout simplement. Et donc, Une femme d'exception, ça retrace sa vie. C'est le biopic. Voilà. C'est mené par Felicity Jones, une actrice que j'aime énormément, qui a énormément de talent et de charme. Elle dégage quelque chose à l'écran, je trouve, qui est toujours assez incroyable, peu importe le rôle. Dans Rogue One, elle était géniale. Même quand elle joue la mère malade dans Monster Calls, je l'ai trouvé génial aussi. Enfin, voilà, une actrice que j'aime beaucoup. Et qui ici va donc incarner celle qui sera une des juges les plus connues des États-Unis, peut-être même la plus connue. Mais avant d'être juge la plus connue, elle était étudiante en droit. Hein. Donc déjà que jusqu'à une certaine époque, les femmes n'avaient pas le droit d'étudier le droit à Harvard. Mmh. Sympa. Donc évidemment, c'est un film qui va parler énormément de féminisme, de droit, d'égalité, etc. Elle va donc se battre pour... au moment où elle commence ses études, évidemment, les femmes sont acceptées, mais c'est quand même quelque chose d'assez neuf, c'est un peu une révolution que certains ne voient pas d'un bon oeil. Ouais. Et donc quand elle va enfin réussir à se faire une petite place dans le milieu, elle va avoir pour concurrent, on va dire, comme pour opposant même, certains de ses anciens confrères, voire ses anciens professeurs. Parce qu'elle va vouloir se battre pour, évidemment, l'égalité entre les hommes et les femmes, d'un point de vue salarial, etc. Mais ce sont toujours des procès qui échouent, qui n'aboutissent à rien. Et donc, son angle, en fait, c'est de montrer c'est de défendre un homme qui a été lésé, qui n'avait pas droit à quelque chose, alors que les femmes dans la même situation ont ce droit. Mais lui, comme il était un homme, il n'y avait pas droit.
D'accord.
Et donc, pour essayer de défendre la cause des femmes, elle défend un homme pour montrer que... Parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, personne n'a jamais prouvé que les droits, enfin, c'était pas égaux, etc. Et que... voilà, ça n'aboutissait jamais à rien.
Il n'y a pas encore
donc,
de débat à la télévision.
Elle fait de la psychologie inversée, tout simplement.
Oui, tout à fait.
Et ça porte ses fruits, sans doute.
Je n'en dirai pas plus. C'est un chemin très laborieux et comprendre... je fais absolument pas de droit, j'y connais pas grand-chose. Mais c'est assez savoureux de voir ce parcours et les étapes du processus judiciaire qui vont faire que ça va aboutir à quelque chose. Quoi exactement
Et Armie Hammer est du coup son client, je suppose.
Son époux.
Son époux, d'accord.
Qui était étudiant en droit aussi, mais... qui va avoir des soucis de santé à un moment et donc je pense qu'il va pas il termine pas ses études. Okay. Enfin voilà, c'est Felicity Jones qui porte complètement le film parce que elle incarne cette juge, elle est de tous les plans, de toutes les scènes.
C'est pas un film qui est sorti aux États-Unis juste avant la période des Oscars par hasard?
Je sais plus exactement, je sais qu'il est sorti en France tout début janvier.
Ça a l'air un peu taillé pour des récompenses, ce genre de film à la base.
Oui, après on l'a pas vu, hein, donc, on l'a pas vu dans les cérémonies de récompenses, donc voilà. Mais
c'est ce qui m'amène à la prochaine question, c'est est-ce que du coup, outre que le sujet est intéressant, est-ce que le film est réussi?
Oui.
Oui.
Oui, oui.
Dans l'ensemble. C'est pas un peu comme The Front Runner, par exemple, que j'ai pu rattraper.
Ah, toi aussi.
Qui lui est un film qui était un peu taillé pour les Oscars, mais qui n'a pas passé le chemin parce que c'est pas non plus. Un peu mouais, quoi, tu vois. C'est un peu. C'est bien, mais c'est pas.
Oui, on peut le mettre dans cette même catégorie de.
Ouais, catégorie
de biopic. C'est ça. Bien foutu, très propre, très soigné, c'est carré, voilà. Y a rien qui dépasse. Mais il manque sans doute quelque chose pour que ce soit absolument génial ou qu'il ait une aura. Sortant un peu de la normale.
De sa formule, quoi.
Mais non. Voilà, c'est un film qui raconte la vie d'une femme. Enfin, non, à nouveau, c'est un biopic un peu réussi, plus réussi que d'autres, dans le sens où, contrairement à la plupart, il raconte pas toute la vie de la personne. Il se préoccupe d'un événement en particulier, comme The Front Runner le faisait aussi.
Tout à fait.
Ça parlait de cette campagne en particulier et rien d'autre. Donc, voilà, un biopic n'est jamais aussi bien, autant réussi que quand il prend un angle et rien d'autre. Donc voilà, pour ça c'est réussi. Effectivement, c'est pas un film qui va rester dans les annales non plus, mais ça fait très bien ce que ça veut faire. C'est très très intéressant. J'ai pas vu les deux heures passer. Il n'y a pas vraiment de coup de mou, ce qui est assez rare dans un biopic, mais voilà, moi, je trouve que c'était une jolie surprise. Et j'espère qu'on reverra encore beaucoup Felicity Jones dans le futur.
Bah oui, c'est clair, en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite. C'est vrai que c'est une actrice qui a un beau calibre et qui peut jouer pas mal. Enfin, un beau calibre, elle est assez calibrée. Enfin, je veux dire, elle est...
Tais-toi. Ce sera donc 2 étoiles pour
c'est
moi.
C'est pour ça que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Elle s'est jouée plein de
arrête,
choses.
Non, arrête, mais c'est pas. J'ai compris. J'ai compris.
Femme d'exception. Merci beaucoup, Thibaut. 2 étoiles pour une femme d'exception. Je propose qu'on passe aux news. Et cette fois-ci, on va parler. On avait parlé Marvel.
Encore très super-héros.
Oui. Bon, je suis désolé. Il y a beaucoup de news sur les super-héros ces temps-ci, parce que comme vous le savez, ça va un peu dans tous les sens. Vous étiez au courant, sans nul doute, que James Gunn avait été licencié de Marvel.
Alors, t'arrêtes de dire James Gunn.
James Gunn.
Merci.
Même il y a 2 N.
Ça change rien.
Ok, James Gunn a été licencié de Marvel et qu'il a été approché doucement. Disons que Warner est venu et James, viens un peu ici. Viens. Dis, t'étais payé combien chez Marvel? Ouh, entre 8 et 10 millions par film. On peut s'arranger à 15-16 si tu viens chez nous. Hein, d'accord, tu viens? Hop, signe un petit papier. Ok, mais je veux faire n'importe quoi. Je veux faire ce que je veux. Ok, tu veux faire quoi? Suicide Squad. Ah merde. Ah non, on va pas recommencer. Ah si. Et j'ai une bonne idée, on va virer tout le monde. On vire tout le casting. On vire Will Smith, on vire Margot Robbie, on refait un nouveau truc. Ah bah oui, c'est bien.
Ouais.
C'est plus ou moins ça. Hein.
Là, t'exagères un peu.
Je suis en train de rejouer la scène dans le bureau. Mais très concrètement, oui, Will Smith ne peut pas tourner dans Suicide Squad 2.
Non. Oui.
Ça, c'est une information.
Oui, oui, alors.
Problème d'agenda. Problème voilà. d'agenda. C'est ce qu'il dit.
Voilà.
Margot Robbie dit plus ou moins la même chose.
Tu crois qu'ils vont vraiment faire, qu'ils veulent vraiment faire table rase de tout le bazar?
Personnellement, je trouve ça un peu bizarre, mais.
Ouais, mais moi, enfin, le casting n'était pas le problème de Suicide Squad. Suicide Squad avait beaucoup de problèmes,
oui.
Mais le casting n'était pas le principal.
Il semblerait que James Gunn a dit, ouais, mais non, moi, je peux pas travailler avec le même casting. Donc, monsieur est arrivé directement, il a posé ses couilles sur la table, il dit non, moi, je travaille pas comme ça.
D'accord.
Je travaille pas comme ça. Okay. Je veux refaire le casting si c'est nécessaire dans certains postes.
Mmh,
donc,
d'accord.
Margot Robbie, à mon avis, reste. La seule problème, c'est qu'elle a un problème de timing et je sais qu'apparemment, ils veulent aller assez vite sur ce tournage-là. Parce que je trouve ça un peu débile. Pourquoi est-ce qu'ils vont si vite? Je veux dire, c'est Will Smith est disponible, mais problème d'agenda, t'attends un peu, quoi, tu vois. Attends qu'il fasse Bad Boys 3. Et puis.
Qui est en plein tournage.
Qui, oui, voilà. Bah, après, tu feras l'autre. Pareil pour Margot Robbie. Mais bon, soit problème d'agenda. Donc du coup, ils ne savent pas très bien ce qui va se passer pour la suite. Et donc du coup, la date de sortie en France, par contre, est prévue le 4 août 2021. Donc ça reste là. Donc il faut aller assez vite, sachant qu'on a annoncé récemment, Warner a annoncé que Aquaman 2 allait sortir en 2020. Je crois que c'est Noël 2020. Donc si Aquaman est déjà annoncé pour Noël 2020 et qu'elle a le 4 août 2021, ils ne savent même pas encore si Will Smith va être de la partie et Margot Robbie non plus. Ça devient compliqué s'il doit faire un reboot. Soit on fait confiance à Warner pour la gestion de ces projets-là, parce qu'à chaque fois, ça se passe très très bien.
Oui.
Disons clairement, il faut rappeler Zack Snyder. Zack, viens, s'il te plaît, viens. On a besoin de toi pour les effets spéciaux. Non, je ne crois pas.
Toujours sur James Gunn.
Toujours, vas-y, enchaîne.
Bah, son scénario sera utilisé pour les Gardiens de la Galaxie 3.
Bah oui, il a bien bossé le mec, donc du coup... Hein, merci James.
Je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner, si ce film va se faire. Parce que le casting avait l'air pas chaud du tout, hein. Sans James Gunn.
Oui, mais non, bon, est-ce qu'ils peuvent vraiment ouvrir trop leur gueule? Enfin, tu sais ce que je veux dire? Ils ont signé un contrat avec Marvel. Bon, tu vois, tu peux faire le mec gentil qui est un ami, mais à un moment donné, Chris Pratt va pas refuser 10 millions et il a sans doute un engagement pour les prochains Avengers aussi. Donc voilà, donc ils ont des petits soucis, je pense. Donc tu es l'ami de quelqu'un, mais est-ce que tu es ami jusqu'au point de dire, écoute, tu sais quoi, ma carrière, je la mets en suspens pour toi? Ça, c'est quand même chaud.
C'est compliqué.
C'est très compliqué. Ouais. Donc du coup, Kevin Feige, qui est quand même le big boss de chez Disney, ça c'est clair. Hein, lui, c'est le big boss du cinéma.
Kevin Feige, c'est le patron de Marvel. Donc,
c'est le patron de tout le monde. Et donc du coup, lui veut continuer avec ce scénario-là. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur le film, je pense, à l'heure actuelle.
Non. Ah non, non. On en saura sans doute un peu mieux après Avengers Endgame, mais d'ici là, mystère et boule de gomme.
Écoute, on verra ça. Et dernière information, quand même, toujours dans l'univers Marvel, on peut en parler, c'est Disney+, qui commence un peu à se préciser. Beaucoup de fans posaient la question, oui mais attends, mais donc du coup, est-ce que les séries Disney+, parce que vous êtes en train de voir ce que vous voyez avec Netflix, qui est en train d'annuler toutes les séries Marvel l'une après l'autre. Hein, donc Punisher, vous aimez bien Punisher?
Cancels. Mais c'est peut-être ce qui arrange... Marvel. Et Disney. Ah,
c'est Marvel qui dit non.
Voilà.
Bien sûr, c'est Marvel évidemment. Qui annule. Donc du coup, Marvel dit oui, mais non, il y a Disney Plus qui arrive, on va faire ça chez nous. C'est plus simple. Du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va avoir des séries, par exemple Scarlet Witch, avec Olsen, c'est Elizabeth Olsen, c'est ça ?
Scarlet Witch. Oui, Scarlet Witch, c'est Elizabeth.
Est-ce qu'elle viendrait faire une série ? Est-ce que Tommy Hiddleston viendrait faire un truc ? Est-ce que Scarlett Johansson viendrait faire une série pour Disney Plus ? On n'en sait rien. Peut-être pas misé jusque-là, mais en gros, Kevin Feige a confirmé que oui, l'univers du Disney Plus serait parallèle à celui des films Marvel.
Un peu comme l'était déjà Agents of S.H.I.E.L.D.
Tout à fait.
Par rapport aux films. Hein.
Tout à fait.
Il y avait toujours les épisodes étaient toujours liés aux films. Après, il n'y a pas besoin de voir les séries Marvel pour comprendre et suivre les films, mais il y a parfois des petites infos ou des petites choses en plus si on suit les séries.
Et donc, par exemple, il pourrait faire, je dis par exemple, il ne le ferait pas parce que je pense que les acteurs ne seraient pas prêts de faire ça, mais il pourrait faire une série Ant-Man avec genre, et Paul Rudd continuerait Ant-Man sur la télévision, ou enfin une série avec, comment s'appelle encore le personnage de Jeremy Renner ?
Ah, Hawkeye.
Qui est toujours oublié.
Œil de faucon. Mais qui revient, il revient. Il sera là dans Avengers 4.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Il sera là.
Parce, qu'ils sont, parce que tous les autres sont morts.
Ils avaient pas le choix. Il aura deux scènes, tu vois. Le pauvre. Ouais. Donc, soit. Ok. Donc, ça, c'était l'information Marvel. Comme quoi, on aura une raison de plus de dépenser 12 euros par mois quand Disney Plus va sortir, ça, c'est sûr. Sans compter qu'ils ont tous les films animés, etc. Ils font de chier de trucs. Disney Channel, enfin voilà.
Pas fini d'en entendre parler.
Exactement. Revenons un peu sur le cinéma. Parlons du mystère.
Nous ne faisons que ça.
On fait que ça, mais parlons des films de la semaine. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, allez.
Un film qu'on a vu tous les deux, encore une fois. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ?
Événement.
C'est la folie.
Champagne.
Non, pas de champagne. Le mystère Henri Pic. Alors là, c'est
genre de film.
Mais qui est Henri Pic ? Alors, Henri Pic, c'est un pizzaïolo, figure-toi, qui apparemment a écrit un bouquin. Et le bouquin, c'est une tuerie. Tu vois, il sort en librairie et...
Une petite pépite.
C'est une pépite. Hein. Donc, le bouquin d'Henri Pic... est très célèbre, ça se vend partout, des millions d'exemplaires en France, enfin voilà. Et il y a une critique de bouquin qui est jouée par Fabrice Luchini, ça lui ressemble plutôt pas mal, critique de bouquin qui remet en question l'identité de cet auteur. Il dit, attends, mais c'est pas possible qu'un mec qui fait des pizzas écrit un truc pareil, enfin même moi, fait 20 ans que je lis des bouquins, je pourrais pas écrire ça.
C'est un Proust, quoi, le bouquin.
Voilà, le type, il est bon, quoi. Il n'y croit pas du tout. Du coup, il s'énerve un peu sur son plateau, il fait un peu la vedette, j'y crois pas, c'est des conneries et tout. Il se fait un peu virer de ton émission, entre guillemets. Enfin, même carrément.
Oui,
pas qu'un
c'est
peu.
Pas entre guillemets.
Et donc, il se retrouve un peu tout seul chez lui à la maison, en disant, mais c'est qui ce putain de pizzaïolo qui m'a fait virer de mon job ? Et il va partir en enquête sur qui a écrit ce bouquin, parce qu'il n'y croit pas. Et il va tomber sur sa route, sur plusieurs personnes, hein, une éditrice, une jeune éditrice de bouquins, un jeune auteur qui écrit des livres aussi, sur aussi la famille de ce fameux Henri Pic qui est décédé, la femme du coup de Henri Pic, sa fille, jouée par Camille Cotin, qui est la co-star du film, hein, clairement, qui elle aussi a peut-être un peu des doutes et donc décide de l'accompagner dans son enquête. Donc voilà, c'est un peu du Fabrice Luchini Show, hein, c'est clair. Mais
un peu plus en retenue que d'habitude.
Exactement, c'est ça que je voulais dire, c'est ça fait un peu peur quand on voit le poster, quand on voit le titre, on voit le truc critique de livre qui va, on se dit ouh là là, on va être parti dans les trucs.
Il va monter dans les tours.
Les 5-10 premières minutes font un peu peur parce que déjà les dialogues au début sont pas super bien écrits et quand Fabrice arrive, il prend tout l'écran avec ses références littéraires qui sont parfois un peu chiantes.
Ah, tu parles de l'émission en elle-même.
L'émission en elle-même du film, mais aussi
vois que c'est écrit et c'est dialogué exprès pour une émission, tu vois, ça
Mais même à côté de ça, je trouve que les dialogues du film, c'est pas la grande force du film. Et donc du coup, on est quand même assez vite rassuré, le film n'est pas uniquement une chier de référence littéraire avec...
Non, du tout.
Voilà, Luchini qui fait son malin, on n'est pas du tout dans cette démarche-là, on est vraiment dans un film un peu... C'est un peu le sentiment que j'ai eu, légèrement, un peu à la Da Vinci Code, comme ça, tu vois, genre, il y a eu un bouquin qui a été écrit...
Il y a une enquête,
c'est tout. Il y a une enquête sur un truc littéraire, tu vois, enfin, donc c'est un peu ce côté-là, ce qui rend le truc assez plaisant, honnêtement, et chouette petite balade en Bretagne, j'ai envie de dire, avec Camille Cotin qui contrebalance plutôt pas mal avec Fabrice Luchini. Avec son franc-parler. Et donc, du coup, on a un choix de trucs. Franchement, un film qui tient la route. Une enquête qui intrigue, et c'est le but. On se demande vraiment qui a écrit ce tut de bouquin. Et donc, ça fait le job. On se prend assez vite au jeu. Et on est un peu conquis par le mystère Henri Pic. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thibaut ?
Mais oui, parce qu'il y a quand même un événement qu'il faut préciser dans le film. C'est que ce bouquin ne sort pas, enfin si, il sort un peu de nulle part, mais en fait la jeune éditrice qui l'a publié l'a trouvé dans une bibliothèque
des, de campagne, quoi,
des bouquins refusés, en fait, ouais. Tous les bouquins que les éditeurs ont refusés. Et donc elle l'a trouvé dans cette petite bibliothèque, elle a sorti le bouquin et voilà. Et c'est important, c'est un élément important, parce que du coup, il y a un mystère complet autour de la personnalité de l'auteur. Et c'est à cause, c'est surtout parce que le bouquin a été trouvé dans cette bibliothèque en question, qu'il y a plein de... qu'il y a tous ces événements,
oui,
tout,
un mystère,
tout découle de ça, en fait.
Et ce scoop journalistique, bien sûr.
Ouais. Alors, je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt bien construit, c'est assez malin, parce qu'effectivement, c'est une enquête assez sympa qui se suit... plutôt facilement, avec ses rebondissements. Il y a un très chouette duo entre Camille Cotin et Fabrice Lucchini. Il y a pas mal de chouettes personnages secondaires aussi, dont l'éditrice, incarnée par Alice Izaz, et son jeune compagnon, un auteur dont Fabrice Lucchini devait parler dans une de ses émissions, mais manque de temps, voilà, il n'a pas pu le faire.
Il ne l'a jamais fait.
Donc il court chaque fois derrière Lucchini pour avoir son avis sur son bouquin. Qui s'appelle
La baignoire.
Voilà. Donc je trouve que c'est assez bien construit. On retrouve complètement la patte de Rémy Besançon dans l'écriture. C'est assez. C'est pas pareil, mais on retrouve certains éléments qu'on peut trouver dans ses films précédents, au niveau de la construction narrative, par exemple. Donc je trouve que c'est un film Besançon plutôt de bon acabit. C'est pas dans ses meilleurs, je préfère même son dernier, Nos frères, ou évidemment Le dernier jour du reste de ta vie, par exemple, mais oui. Il y a de très très bonnes choses dans le film. Et l'enquête, vraiment, on la suit comme Lucchini, parce que le spectateur n'est pas mis dans le secret de cette enquête. Il doit vraiment essayer de la comprendre et de la suivre par lui-même, comme le personnage de Fabrice Lucchini. Donc, et effectivement... la résolution de l'enquête est plutôt sympa.
Oui.
Ça fait un peu... t'as l'impression qu'on te jette tout ça à la figure et que c'est pas forcément très crédible, mais personnellement, j'ai bien aimé cette résolution.
Moi, je trouve ça crédible.
Ouais, c'est sympa.
J'ai grillé la fin après 30 minutes. Hein.
Ouais.
Ouais.
D'accord, ok.
Ouais. Mais bon, si vous avez l'habitude de voir des films un peu comme ça, mystère ou suspense, vous allez très vite à voir les ficelles.
Moi, je me suis bien laissé porter. J'ai pas.
Ah ouais, j'ai
pas trop creusé non plus. J'ai pas cherché à.
Oui, voilà. Moi, je suis genre un peu cherché à décortiquer
vraiment,
le truc.
J'étais pépère chez moi devant mon ordi.
Oui, non,
mon petit thé.
C'est ouais. Ça. C'est le public averti sans doute.
Je me laisse emporter.
Pourra savoir quelle est la fin, mais encore parfois, ça m'arrivait de la douter un petit peu. Mais genre, en fait, peut-être que c'est pas ça. Mais j'avais quand même réfléchi à cette fin-là. Et donc, du coup, oui, c'est un film. Moi, ce que j'aime bien aussi avec le mystère Henri Pic, c'est que c'est un film. Comment dire, c'est pas un film de bobo parisien. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les comédies aujourd'hui ou les trucs comme ça, c'est un peu. Milieu stupéfiant, tu vois ce que je veux dire, on reste un peu dans la sphère parisienne et tout. Mmh. Et là, nous, au contraire, on va un peu dans des villages, on sort un peu de ce truc-là, et donc ça apporte une touche un peu plus authentique au film et moins, voilà. Oui, bon, parisien, je veux dire ça comme ça. Je pense que c'est assez clair. Surtout pour un Fabrice Lucchini, c'est souvent son risque de tomber là-dedans. Et il n'est pas du tout là-dedans, donc c'est vachement plaisant. Je pourrais très bien me laisser tenter par un Mystère Henri Pic 2. Je crois que le titre est différent. Mais une suite ou un truc comme ça avec les personnages qui retenteraient une enquête ou quoi, ça me paraîtrait plausible.
Mm-hmm.
Pas grand-chose d'autre à dire de plus, hein, mis à part que voilà, parfois les scénarios sont un peu... Enfin, les dialogues sont un peu évidents. Parfois, les personnages disent ce qu'ils pensent, ce qui est parfois un peu problématique dans le film. Mais à côté de ça, c'est pas choquant du tout. On n'est pas non plus dans l'amateurisme, loin de là.
Ouais.
Donc,
j'ai discuté du film avec un ami qui l'a vu également et il trouvait que il y avait un petit. Il trouvait que les gens étaient un peu trop crédules dans l'absolu. Et j'étais pas d'accord parce que effectivement, donc c'est-à-dire qu'ils croient tous que ce bouquin sort de nulle part et que c'est un chef-d'œuvre et que c'est vraiment Spizzaiolo qui l'a écrit. Moi, je n'étais pas d'accord parce que je trouve que les gens ne sont pas forcément crédules. À mon avis, ça les arrange en fait comme histoire. ils n'ont pas envie de connaître la vérité derrière qui est réellement l'auteur du livre. Je pense que juste que le monde littéraire, ça l'arrange d'avoir un...
C'est un beau scoop,
c'est,
quoi. Hein.
C'est un beau scoop, c'est un beau buzz, c'est une belle histoire.
C'est positif.
Le truc du pizzaiolo qui aurait écrit en cachette chez lui, etc. Et je pense que les gens sont juste satisfaits par cette possible histoire et que du coup, ils ne cherchent pas à creuser et que c'est pour ça que le personnage de Lucchini est
seul contre tous. C'est un emmerdeur parce qu'il arrive et il chie tout le monde. Parce qu'il dit, bah non, pas possible, c'est quoi ces conneries ? Donc tout le monde dit, mais c'est qui ce type ? Dégage, quoi. On a une belle histoire pour une fois en France. Tu viens nous faire chier avec un... avec non. Donc voilà, le mystère Henri Pic, ça vaut ce que ça vaut. C'est sympathique. C'est un bon moment, à mon avis. C'est clair. Enfin, c'est un film coproduit par France 2, donc c'est clair que France 2 va passer dessus. 2 étoiles ?
Oui.
2 étoiles, hein, clairement.
Oui, oui, un bon...
Dans un autre style, bien sûr, que précédemment. On fait que des 2 étoiles, en fait, aujourd'hui. C'est un peu ça, le planning. Hein.
Aujourd'hui, on est plutôt à 2 étoiles.
Plutôt à 2 étoiles. Parlons de la dernière news de l'émission avant de parler du dernier film qui s'appelle Les Éternels. C'est Cannes 2019. On vient d'avoir quelques informations sur, notamment, qui va présider le jury de la 72e édition du Festival de Cannes. Thibaut sera présent sur place. Je ne serai pas là.
Ouais, j'espère. Hein. J'attends toujours la réponse pour mon accréditation.
Oh, oui, bon,
qui, j'espère, sera positif parce que j'ai déjà mon appart et mon billet d'avion.
Hein. J'espère aussi pour toi. Donc voilà, écoute, Cannes 2019, présidé par Alejandro González Iñárritu.
Je suis très content.
Bah oui.
Ah, j'adore Iñárritu.
C'est pas. C'est le maître de la caméra qui virevolte un peu dans tous les sens.
Birdman.
Birdman ou The Revenant aussi. Mon plan. Donc voilà, c'est clair que c'est un beau nom, comme souvent au Festival de Cannes. Hein, ils prennent toujours des grosses pointures pour présider le festival. Je pense à l'année passée, on avait Kate Blanchett, et à côté, on avait quand même Denis Villeneuve. Tu vois. Alors que Denis Villeneuve, en soi, aurait pu être le président.
Non,
pas encore. Mais alors quand même, c'est déjà
trop,
du nom.
Trop jeune carrière. Même si, voilà, je pense que le monde du cinéma ne serait pas choqué si Villeneuve était président, mais il faut du lourd de chez lourd.
Ouais,
Iñárritu, même s'il a fait quasiment autant de films que Villeneuve, voilà... Il a un peu plus d'Oscars derrière lui, et puis un peu plus de renommée quand même, d'une certaine façon. Hein. Donc Iñárritu, excellent choix, je trouve. Je suis très très curieux de voir qui sera dans son jury.
Bah oui.
Mais voilà, moi je suis ultra fan.
Une question, c'est pas lui qui constitue le jury, c'est Frémaux.
Ah non, bah non, bien sûr, c'est le festival qui constitue le jury. Le président n'a rien à dire.
Oui, donc c'est toujours Pierre Lescure et Thierry Frémaux qui sont là depuis...
Lescure depuis 5 ans, quelque chose comme ça. Frémaux depuis 20. 25.
Clairement. Festival de Cannes qui doit un peu toujours se positionner. Hein. On le sait, on en a parlé l'année passée. Faire attention aux autres festivals qui existent parce qu'il y a de la concurrence. Netflix, c'est ce qu'on fait.
Cette année, ils ont la chance d'avoir un film très très attendu par le monde entier qui sort au mois d'août. Et donc, trop tôt pour le Festival de Venise. Donc, on est déjà sûr d'avoir un très beau tapis rouge avec Tarantino et toute son équipe.
À mon avis, Once Upon a Time.
C'est pas officiel, mais. Franchement, si le film n'y est pas, c'est qu'il y a un gros, gros problème.
C'est qu'ils ont un souci. Ouais. Ils ont un souci à l'agenda.
Là, vraiment, Cannes n'ira pas bien.
J'ai cru comprendre qu'ils remettaient en question également les projections presse. Donc, à Cannes...
Non, parce qu'ils ont déjà changé ça l'année dernière.
Oui, mais ils vont peut-être revenir à l'ancien procédé avec les embargos.
Moi, je pense qu'ils pourraient revenir à l'ancien procédé en faisant signer un embargo en début de festival par tout le monde.
Qu'on explique.
Genre,
hein.
Oui, donc le problème avant, c'est que... La presse pouvait déjà dire ce qu'elle pensait du film avant, à la fin de la première projection presse, en fait, qui est souvent avant la première...
Non, c'était pas ça le problème. C'était pas
première du film.
C'était pas le fait que... Donc,
c'est que les journalistes voyaient le film avant
la première. Oui,
c'est ça.
Okay.
Donc, que les
mais ils pouvaient pas dire,
voyaient le film
ils
avant...
Ils pouvaient pas dire leur avis.
Si.
Ah, ok. Donc, ils pouvaient dire ce film
dès
la merde
du matin,
soir,
dès la projection de 8h30, tu seras à 10h, tu peux dire que le film est de la merde sur Internet.
Non, ça, il faut pas.
Et puis, t'as le tapis rouge du film le soir. C'était ça le problème.
Je peux comprendre que c'est problématique.
Mais ce qui arrive... et donc, du coup, ils ont changé. Ils ont mis les projections presse en même temps, au plus tôt.
Et après.
Et après. Les projections
ce qui fait
officielles.
Que parfois, on allait voir des films comme Black Kingsman à 22h30.
Mais du coup, c'est chiant parce que les quotidiens, ils se disent qu'ils parlent des films avec 2 jours de retard.
Oui, tout à fait.
Ceux qui voient...
Et ça veut dire que tous les journalistes sur place doivent bosser soit la nuit pour écrire, soit toute la journée, finalement, pas avoir de film.
Et du coup, certains aimeraient bien revenir au système avant en faisant signer un embargo en début de festival, comme ça se fait à Venise. À Venise, t'arrives, tu signes un embargo. Enfin, je sais même pas si tu dois le signer, mais...
Déjà, le fait de s'inscrire,
il y a un embargo,
signé, en fait,
c'est sans doute. Si t'as l'accréditation, t'es soumis à l'embargo. Tu peux pas donner ton avis avant le début de la projection officielle.
Voilà.
C'est simple, c'est-à-dire que tout le monde est sur un pied d'égalité, tout le monde a le temps d'écrire dessus, et je trouve que c'est un excellent système.
Oui, parce que dans ce système-là, ce qui ferait... En gros, le film serait peut-être projeté à 10h du matin, par exemple, tu vas voir le film à 10h, à midi, t'as fini, tu manges un bout, t'écris ton article à 14h ou quoi, et en fait, il est prêt pour le soir, et c'est vrai que, pour avoir été à Cannes l'année passée, c'est vrai que c'était parfois fatigant de devoir aller voir toujours des films à 22h30 pour être sûr de ne pas le louper. Parce que t'es là, bon. Sinon, t'as toujours un retour. En fait, t'as toujours un jour de retard par rapport au festival si tu vas pas voir le film le soir, en fait.
Ouais.
Concrètement, c'est vrai que le lendemain, tu dois rattraper tout le temps. Ouais. Et donc, c'est chiant de devoir tout le temps rattraper. Il vaut mieux être à la page. Mais donc, à la page, ça veut dire que tous les soirs, tu dois voir un film à 22h ou bien le lendemain à 8h15. Enfin, c'est pas toujours évident quand on doit en plus travailler ou quoi sur le côté.
Effectivement.
Donc, en espérant qu'il change ça, bien sûr.
Et on va conclure
cet épisode avec Les Éternels.
Avec Les Éternels,
comme
un film de Cannes de l'an dernier.
Tout à fait.
Film qui était en compétition, film du chinois Jia Zhangke, qui avait réalisé l'excellent Touch of Sin. Et qui ici, en fait, Les Éternels, c'est aussi un peu un film somme, d'une certaine façon, dans le sens où on retrouve à peu près tous les grands thèmes et les personnages un peu caractéristiques du cinéma de Jia Zhangke, donc c'est-à-dire un personnage féminin fort, en général, dans le rôle principal. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une belle semaine de femmes, parce que, mm-hmm. à part Henri Pic, où c'est un duo homme-femme, tous les autres, ce sont des personnages féminins qui sont les personnages principaux. Et donc, ici, en fait, le cinéma de Jia Zhangke, c'est quoi ? C'est un peu la Chine, un côté mafieux aussi, un côté rural, mm-hmm. un côté social. Donc, c'est toujours un cinéma très intéressant, je trouve, parce que on découvre un peu, hein, faut mettre des pincettes, un pays au travers de ces fictions. Donc il y a toujours un truc assez, vraiment très intéressant à ce niveau-là. Sauf que lui, il le fait ici avec un bon thriller. Question de mafia, de faire tout en faisant découvrir la Chine contemporaine, en fait. Donc il y a une bonne histoire avec une ancienne de une dame qui était liée à la mafia, mm-hmm. qui va avoir des soucis avec la mafia et qui va essayer de régler ce souci. Voilà. Mais c'est filmé comme un drame social presque.
D'accord.
Donc je trouve qu'il y a des choses qui pourraient se contredire dans l'absolu, tu vois. Filmer un thriller comme un drame social, ça,
oui.
t'as l'impression que c'est pas très compatible et ça fonctionne très bien. Par contre, il faut s'accrocher parce que c'est un film qui dure 2h20
mm-hmm.
et enfin, ça se regarde pas comme un blockbuster américain, c'est tout.
Non, le rythme n'est pas le même, quoi.
Non, du tout.
Souvent, avec des films en plus asiatiques en général, le rythme n'est pas toujours le même.
Mais oui, et alors c'est absolument pas chiant, hein,
non.
Mais voilà, il faut. Il faut le voir dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que commencer à regarder un film pareil à 21h, si t'es pas en forme,
ouais.
ça peut être lent.
C'est comme Burning, hein, tu vois, c'est un film qui se regarde, qui, voilà, c'est pas un film que tu vas...
Ouais, ça se regarde pas. Burning, ça se regarde pas vraiment. T'es un peu méchant. Enfin, ça dépend dans quel sens tu veux dire qu'il se regarde.
Bah, c'est un film comme tu l'attends. Il n'est pas endormant, je dis pas ça, hein, pas du tout. Mais le rythme n'est pas le même que... Si le film Burning était fait aux États-Unis, t'aurais un rythme beaucoup plus avancé,
oui.
C'est ça que je veux dire,
oui,
c'est
non,
souvent
ça,
le
oui,
rythme
oui,
est beaucoup plus, ils prennent le temps de raconter l'histoire,
ouais, ouais, ouais.
Tu vois ce que je veux dire, donc c'est un film où il faut être un minimum concentré, quoi. Tu vois, tu dois pas, on t'apporte pas toutes les informations dans une cuillère, quoi. Tu dois un peu aller chercher toi-même, quoi.
Ouais. Ah oui, oui. Ah bah ici, clairement il faut...
Attentif.
Il faut être attentif, un peu actif, mm-hmm. parce que voilà, c'est un cinéma qui se découvre et qui se déguste, mais il faut y mettre un peu du sien. Voilà.
C'est ça. Vous êtes averti.
Oui. Alors, c'est pas un cinéma que j'affectionne particulièrement, mais c'était absolument pas un déplaisir d'un peu plus creuser le cinéma de Jia Zhangke. Je connais un peu, j'ai vu plusieurs de ses films, mais je suis pas un expert non plus. Mais clairement, voilà, c'est un peu un film qui résume bien son style de manière générale. Donc,
mm-hmm.
si vous voulez creuser ou pas le cinéma de Jia Zhangke, allez voir Les Éternels et vous serez fixé si ça vous intéresse.
Creusons ensemble. Donc voilà, combien tu donnes pour ce film, Les Éternels ?
Un très bon 2 étoiles aussi.
Enfin,
oui, c'était la journée des 2 étoiles.
C'est dingue, saison 2, 2 ouais. étoiles, épisode 24. Que des 2, c'est formidable. Enfin, 2.
Presque.
Presque.
C'était mieux, c'était l'épisode 22.
Hein. 2 plus 2, 4. Hein, c'est... ok, voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. On a donc parlé de Captain Marvel, d'une femme d'exception, du Mr. Henry Pick et du film Les Éternels. On passe, comme d'habitude, en revue les films de cette semaine. Forcément, on n'a pas tout vu. Reine d'un été, un film danois qui sort...
Pas entendu parler.
Voilà. Une femme d'exception, On the Basis of Sex, avec Felicity Jones et Armie Hammer, etc., etc. 2 étoiles. Les Éternels, on vient d'en parler. 2 étoiles. Blaze de Ethan Hawke.
Oui, premier film d'Ethan Hawke en tant que réalisateur, que je n'ai pas vu.
Est-ce qu'on en parle brièvement?
Non, absolument okay. pas.
Voilà. Le mystère Henri Pic, on vient en parler. Bon film avec Fabrice Luchini, qui fait plaisir. Bonne petite film d'aventure slash suspense. Enfin, peut-être pas suspense, mais en tout cas intrigue. Damien veut changer le monde, avec Franck Gastambide. Oui, on l'a pas vu. Parce qu'on n'était pas invité au festival d'Alpes d'Huez. C'est peut-être pour une bonne chose, je ne sais pas.
Il a été montré à la presse, hein, cela dit.
Oui, on n'a pas été voir pour être franc.
Je suis pas fan de Franck Gastambide, donc voilà. Non. Mais c'est peut-être très bien.
J'ai pas vraiment eu d'écho. On ne saura pas.
Pas de jugement de valeur.
Aïlo, une odyssée en Laponie. On ne sait pas. Celle que vous croyez, film de Safi Nebou.
Avec Juliette Binoche.
Et François Civil.
Oui.
Encore.
La star. Là, il va en 2-3 mois, il va avoir 3 films parce qu'il est aussi dans le prochain film d'Hugo Gélin qui sort, je pense, au mois de mars ou avril, enfin peut-être mai. Mais voilà, il aura une première moitié de 2019 assez chargée.
En tout cas, moi j'applaudis tous ces films qui sortent en la même semaine que Captain Marvel, puisque oui, Captain Marvel sort cette semaine-ci, on en a parlé, 2 étoiles. Il y a également le film Nos Vies Formidables de Fabien Godet avec Julie Moulier. Non ?
Non.
Non. Voilà, donc quand même pas mal de films. Au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films cette semaine, dont Captain Marvel. Il faut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux, les distributeurs. Ils misent sur la contre-programmation, mais il ne faut pas avoir peur. Quoi. Donc ça, c'est clair. La semaine prochaine, on sera là, bien sûr, pas de vacances, si les gars, quoi. Pour vous parler de différents films, est-ce que tu sais déjà lesquels on va parler parmi tous ceux-là, il y a entre autres Stan et Oli, non?
Oui.
Stanley, Leto, forcément.
Leto aussi, évidemment.
Est-ce que tu as vu Destroyer avec Nicole Kidman?
Le reste, on verra si j'arrive à rattraper certaines choses en lien.
On verra. Ok, en tout cas, on vous donne rendez-vous pour l'épisode 25 la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, à vous abonner au podcast sur iTunes, sur Spotify, sur la plateforme de votre choix, ou même sur YouTube, puisque nous avons une chaîne YouTube avec les extraits de cet épisode. À très bientôt. Des bisous.
Des bisous.